On est en entier. Salut Romain Oquet. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et avec Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Par exemple, aujourd'hui, on va parler littérature. On va passer en revue les films musicaux en lice aux Oscars. Vous retrouvez aussi, par ordre alphabétique, Bruno Donnet pour ses télescopages, Rémi Jacob pour le journal des médias et les audiences, notamment les audiences du week-end, et Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Notre info média autour du sujet dont les Français disent que les médias ne parlent pas assez. Hier, le magazine Zone Interdite diffusait une enquête choc sur la prise en charge de nos aînés un an après le scandale Orpea. Eh bien, ça ne s'est pas vraiment amélioré. Révélation avec Géraldine Levasseur et Laure Herpeux. Le débat continue, elles sont productrices et réalisatrices de l'enquête. Hasard de l'actualité, on va rester sur M6 avec un nouveau couple qui a débarqué lundi dans Scène de ménage. Une fois n'est pas coutume, ce sont des comédiens confirmés, des noms, comme on dit Fanny Cottençon et Didier Bignoureux. Et vous savez quoi? Ça a cartonné, la mini-série bat ses records de saison. Ils seront tous les deux avec nous. C'est la 14e saison. Enfin, le rappeur, Oxmo Puccino. Il n'est pas seulement rappeur et justement, il est à l'affiche d'un spectacle qui fait tomber les barrières. Marcel, d'après l'œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu avec une icône du cinéma français, Françoise Fabian. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Denis Brognard mis en cause par d'anciennes collaboratrices, également un humoriste qui claque la porte d'une émission de France 5, deux nouveaux membres dans le jury de Mask Singer, le patron des programmes de flux de TF1 nous expliquera ce choix et enfin un classement des jeunes leaders de moins de 35 ans qui font bouger la France. C'est ce matin dans les Échos, on entendra celui qui est arrivé en tête de ce palmarès.
Mais d'abord, c'est la tradition, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Et c'est TF1 qui est sur la première marche du podium avec la finale du championnat du monde de handball. France-Danemark, 5,1 millions de téléspectateurs, soit 22,7% du public pour ce match programmé. Au dernier moment, est perdu par la France. Derrière, on retrouve France 3 avec la série allemande Meurtre en eau trouble, 3,1 millions de téléspectateurs, soit 14% de part d'audience. Enfin, France 2 clôture ce podium avec le film Terminator Dark Fate, 2,2 millions de téléspectateurs et 10,7% de part d'audience. De son côté, M6 est au pied du podium avec Zone Interdite qui proposait un documentaire choc sur les EHPAD. Vous en parlerez tout à l'heure en studio avec sa productrice et sa réalisatrice Philippe. 1,9 million de téléspectateurs et 9,9% de part d'audience. C'est en hausse par rapport au précédent numéro.
Sur le reste du week-end,
allez, très rapidement, une chose à retenir, c'est la plutôt bonne performance samedi soir sur France 2 du Gala des Pièces Jaunes. On vous en parlait ici même vendredi, un concert avec un casting très relevé. Pharrell Williams, Mika, Blackpink ou encore Michel Polnareff. Au final, 2,4 millions de téléspectateurs ont répondu présent. Ça permet à France 2 d'être sur la deuxième marche du podium, derrière France 3 et le téléfilm Les Bois Maudits, mais devant TF1 qui diffusait Ninja Warrior.
Europe 1, le journal des médias.
Ninja Warrior, une émission présentée par Denis Brognard, l'animateur qui est mis en cause par d'anciennes collaboratrices, on l'a appris vendredi.
Oui, c'est ce que révèle une enquête de Voici. L'animateur de TF1 est accusé notamment d'avoir hurlé de manière, je cite, « terrifiante » sur une journaliste et une chargée de production. C'était lors du tournage des célébrations du 14 juillet. L'ex-animatrice de Téléfoot, Charlotte Namura, explique également que le présentateur lui aurait lancé des mots très violents. C'était pendant une coupure pub sur le plateau de l'émission Le Mag de la Coupe du Monde en 2018. De son côté, Anne-Laure Bonnet, qui a co-présenté avec lui F1 à la Une, évoque une collaboration difficile avec, dit-elle, un grand professionnel qui lui a beaucoup appris, mais qui pique des colères folles avec ses subordonnés.
Et l'animateur a répondu à ces accusations.
Interrogé par le magazine Voici, il a tenu à présenter ses excuses. « Je suis très engagé », explique-t-il, « perfectionniste. Et à l'occasion de deux directs sur TF1 où la pression est intense, j'ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des mots qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Il ajoute par ailleurs que ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect qu'il entretient avec ses équipes depuis 30 ans. De son côté, le patron de l'information du groupe TF1, Thierry Tuilier, a confié aux Parisiens s'être entretenu avec le présentateur et cela après qu'une enquête ait été menée en interne. J'ai eu une discussion avec Denis, explique-t-il. On s'est dit les choses. Pour moi, Le sujet est clos.
On enchaîne avec un humoriste qui claque la porte de l'émission C'est l'Hebdo, émission de France 5.
Il venait pourtant tout juste d'être recruté. Il était arrivé dans l'émission d'Ali Badou le 7 janvier dernier où il avait été présenté comme ceci.
Et un nouveau rendez-vous maintenant dans l'émission. Tous les samedis à 20h50, je vous le disais, Pierre-Emmanuel Barré nous rejoindra en plateau pour le bilan Barré. L'actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barré. Et il vaut mieux se préparer.
Alors, personne évidemment ne s'attendait au départ si rapide de Pierre-Emmanuel Barré, hein, puisqu'il s'agit de lui en cause. Une chronique qu'on lui aurait demandé de retoucher. Il s'en est expliqué auprès de nos confrères du Parisien. « On m'a demandé d'enlever trop de choses pour que cela soit acceptable de mon côté », dit-il. Sur Twitter, il a laissé entendre que la chronique en question concernait Brigitte Macron. La semaine dernière, une chronique sur Cyril Hanouna, hein, dans laquelle il s'en prenait violemment à l'animateur de C8, avait fait grincer beaucoup de dents dans les couloirs du groupe public. Hein, c'est ce que souligne Le Parisien. De son côté, la présidente de Media One Productions, hein, qui produit le magazine, Justine Planchon, évoque, je cite, « un désaccord de ton entre ces chroniques et celui qu'on a construit dans notre émission ». Fin de citation.
Un nouveau jury dans Masked Singer.
Ah oui, l'émission de TF1 dont le tournage de la 5e saison débute aujourd'hui. Hein, c'est l'une des marques fortes de la chaîne et on a appris vendredi qu'Élodie Frégé et Michel Bernier remplaceront Chantal Latsou et Vita dans le jury. Hein, elles seront aux côtés de Kev Adams et Jeff Panaclock, hein, qui eux restent dans le programme. Alors, pourquoi ces deux nouvelles recrues, hein, que vont-elles apporter? Explication de Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1. Il est au micro de Culture Média.
Alors Élodie Frégé, elle apportera sa touche glamour au programme et sa grande sensibilité. Elle avait d'ailleurs été une super jurée de Nouvelle Star il y a quelques années. Puis bon, c'est un peu le retour en force de la Starac cette saison. Donc vu qu'elle avait gagné la saison 3, on s'est dit que c'était un peu la bonne année pour proposer à Élodie. À ses côtés, donc Michel Bernier. Michel Bernier, c'est 35 ans de carrière, du petit théâtre de Bouvard à la série La Stagiaire sur France 3, qui cartonne. Elle connaît tout le monde, à la radio, au cinéma, au théâtre, à la télé. Donc elle complète parfaitement ce jury avec son expérience, avec un regard un peu plus adulte sur l'enquête et sur les personnalités qui se cachent sous les masques. Elles rejoignent toutes deux Jeff Panaclock et Kev Adams, donc voilà, un jury très transgénérationnel, complémentaire. Bref, on a hâte de tourner cet après-midi le premier épisode.
Rémi Faure, le directeur des programmes de flux du groupe TF1. On va partir aux États-Unis maintenant avec le site BuzzFeed qui va faire écrire certains de ses contenus par ChatGPT.
Oui, hein, ChatGPT, vous savez, c'est cet outil d'intelligence artificielle qui fait fureur en ce moment un petit peu partout dans le monde. Hein. Il permet de produire des contenus sur à peu près tous les sujets, de quoi donner des idées aux médias en ligne BuzzFeed, hein, qui va désormais s'en servir pour produire des quiz personnalisés. Hein. C'est ce qu'a révélé le Wall Street Journal, une annonce qui a fait immédiatement bondir son cours en bourse, plus 120% tout de même en l'espace de quelques heures.
C'est énorme, c'est plus que doublé. On termine avec un classement publié ce matin par les Échos.
Oui, hein, c'est dans les Échos Start, hein, le cahier du journal Les Échos destiné aux jeunes. Hein, c'est un classement qui a été réalisé par l'association Positive Planète, hein, fondée par Jacques Attali. Alors concrètement, il met en lumière des leaders positifs de moins de 35 ans. Hein, c'était le critère pour figurer dans ce palmarès, hein, qui consacre des entrepreneurs, des influenceurs ou encore des activistes, hein, qui tous proposent des solutions pour construire une société plus durable. Et à la première marche du podium, on retrouve un jeune Marseillais de 19 ans. Il s'appelle Amine Kessassi. Il a fondé en 2020 une association baptisée Conscience. Elle s'adresse aux jeunes des quartiers nord et ses actions sont très diversifiées, comme l'explique le jeune homme.
Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des jeunes sur l'insertion professionnelle où on organise des ateliers, CV, lettres de motivation, où on les aide à les faire. Et puis après, on a tout un dispositif social où là, on fait des colis alimentaires pour des familles dans les quartiers nord. Et puis, on a tout un tas d'actions tournées vers la citoyenneté où, par exemple, pendant la présidentielle, on a inscrit des jeunes sur les listes électorales. Et puis le plus gros dispositif qu'on gère, sur lequel on est beaucoup financé, c'est l'accompagnement des familles endeuillées où malheureusement Marseille est marquée par une actualité qui est triste parce que beaucoup de personnes perdent des enfants, perdent des proches dans des homicides. Donc on accompagne ces familles pour qu'elles puissent faire leur deuil dignement.
Accompagner les familles endeuillées, et cette mission, hein, elle fait écho, vous allez l'entendre, à un drame personnel qu'a vécu Amine Kessassi.
Quelques mois après la fondation de l'association, j'ai perdu mon grand frère. Il a été retrouvé assassiné à Marseille. Et donc depuis, J'essaye de faire en sorte de me dire que malheureusement on n'a pas pu sauver mon frère, mais que nous on va essayer de sauver d'autres jeunes, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Il y a par exemple un dispositif qu'on mène avec une entreprise qui s'appelle Satis, où on a sélectionné 15 jeunes des quartiers. Ces 15 jeunes là ils ont suivi une formation, c'était des jeunes qui étaient impliqués dans des trafics de stupes ou qui étaient déscolarisés depuis longtemps et qui traînaient dans les quartiers. Aujourd'hui ils travaillent tous dans la carrosserie aéronautique, enfin sur les 15 il y en a 13 qui ont signé un contrat, et donc je me dis qu'on a réussi à sortir que 13 jeunes tout de même des réseaux.
Amine Kessassi, qui est donc en tête du classement des 35 jeunes leaders positifs publié par Les Échos Start. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, le sujet dont les Français exigent que les médias parlent davantage, c'était l'objet d'une enquête choc diffusée hier sur M6. Dis-moi comment tu traites tes aînés. Je te dirai dans quelle société tu vis. On en parle avec Géraldine Levasseur, la productrice, Laure Herpeux, journaliste, réalisatrice de l'enquête. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est le sujet dont les Français trouvent qu'on ne parle pas assez dans les médias, un sujet qui concerne et inquiète toutes les familles. Hier soir sur M6, le magazine Zone Interdite diffusait une enquête choc sur la prise en charge des personnes âgées et ça fait froid dans le dos. Maltraitance, dénutrition, auxiliaires de santé débordés, un an après la sortie des Fossoyeurs, le livre du journaliste Victor Castanet qui avait fait éclater le scandale Orpea. Les choses n'ont pas vraiment changé, ni chez Orpea, ni vraiment ailleurs. Dans l'ensemble du secteur, ce n'est pas mieux, mais est-ce une fatalité? L'enquête donne également quelques raisons d'espérer. Pour en parler avec nous, Géraldine Levasseur et Laure Herpeux, respectivement productrice et réalisatrice de cette série de ce documentaire Défis et scandales de la dépendance, diffusé hier sur M6. Alors en général, on ne parle pas ici des programmes déjà diffusés, c'est même une première, sauf que là le sujet est incontournable et vous ne pouviez pas en parler pour des raisons juridiques. L'enquête crée l'actu et relance le scandale. On peut évidemment voir l'émission sur 6play. Pardon de ce lancement un petit peu long. Laure Herpeux, les Français disent que c'est le sujet dont on ne parle pas assez dans les médias. Est-ce que vous avez suivi, je vous regarde Laure, mais je peux aussi poser la même question à Géraldine Levasseur, vous avez vu les audiences?
Écoutez, oui, rapidement, mais on est content.
1,97 million, on va dire 2 millions, 9,9% de l'ensemble du public, on va dire 10% du public. Vous êtes quatrième, mais c'est quand même un très bon score.
Ça veut dire que les gens sont prêts à affronter des questions difficiles, des documentaires également difficiles, et ça veut dire que les gens sont en quête d'informations et ont besoin d'être informés sur ces questions fondamentales.
Quelle réaction avez-vous eue depuis hier soir? On a noté ce tweet de Ségolène Royal, je la cite, témoignage glaçant. La privatisation des métiers et du soin est une horreur. D'autres réactions que vous avez reçues, Laure Herpeux?
Oui, y a pas mal de réactions sur Twitter, notamment des gens qui s'indignent des conditions de traitement de nos aînés et des personnes âgées en France. Donc ça a pas mal buzzé sur les réseaux. Ouais.
Et puis il y a eu des réactions aussi, il y avait un bug de son.
Alors,
indépendant de votre volonté, mais on va le dire, il y a un petit problème de son.
Écoutez, oui, on est en train d'essayer, enfin M6 est en train de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé au niveau de la régie, on n'a pas compris.
Parce qu'évidemment, le son, quand vous étiez en régie, il était parfait. Quand vous avez fait le montage, Le son est parfait. Alors, au départ de votre enquête, Laure Herpeux, ça ne concernait pas particulièrement Orpea, sauf qu'en novembre dernier, le nouveau directeur général, Laurent Guillot, convoque la presse pour faire passer un message.
Orpea change pour vous, avec vous et pour vous. Depuis le mois de septembre, nous embauchons 800 personnes par mois.
Et là, du coup, Laure Herpeux, vous dites, tiens, on va aller voir comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que ces mots se traduisent en actes?
Oui, exactement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est parti du constat de base que 9 Français sur 10 veulent vieillir et finir leur jour à la maison. Donc l'enquête est vraiment partie du domicile. Comment ça se passe à la maison? On a beaucoup entendu parler des scandales différents dans les différents EHPAD, publics comme privés d'ailleurs. Et on s'est dit, c'est quoi le constat à la maison? Et en fait, force est de constater que sur 1,3 million de personnes dépendantes, il y en a 600 000 qui sont quand même en EHPAD. Donc on a aussi creusé cette thématique-là. Et c'est vrai que quand Laurent Guillot, donc le nouveau directeur d'Orpea, s'est engagé avec ses promesses de changement, on s'est demandé... concrètement, comment ça se passe?
Et ça va même plus loin, puisque Orpea vous ouvre les portes d'un EHPAD qui a l'air absolument formidable. La directrice est dévouée, il y a un petit poulailler, les résidents ont l'air heureux. Ils disent même qu'on en peut-être, on en a peut-être un peu trop fait sur le scandale Orpea. Ce sont les résidents qui disent ça. Et les après-midi se terminent en chanson extrait.
Alors on va chanter Vive le vent.
Si on avait su qu'on allait chanter, on aurait pris nos lunettes.
La 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 la. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver.
Ici, la vie semble douce.
Bonne année, grand-mère.
Mais là, vous vous demandez si la com d'Orpea n'est pas un peu en train de vous balader. C'était un EHPAD témoin.
Alors, c'est leur EHPAD modèle, hein, clairement. Ouais. C'est un endroit où il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'enquête dans cet EHPAD. Tout se passe bien. Et d'ailleurs, la directrice est une personne vraiment engagée aux petits soins avec ses résidents comme ses employés. Donc, ils nous ont ouvert les portes de cet EHPAD-là à un certain horaire, avec la communication derrière nous. Et ils avaient choisi les personnes à qui on pouvait parler, en fait. Donc, c'était une ouverture.
D'accord, je repose ma question. Aviez-vous l'impression de vous faire balader?
Oui, un peu. Un peu.
Géraldine Levasseur, vous évoquez une véritable omerta du milieu. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce si difficile de recueillir des témoignages, notamment un an après ce qui aurait dû être une sorte d'opération, entre guillemets, portes ouvertes?
C'est-à-dire que les gens ont la trouille, les soignants ont peur de perdre leur boulot. Et puis, il faut savoir également que c'est des gens qui aiment leur travail, qui ont choisi ce métier. Alors, c'est des petits boulots, c'est des gens qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, qui ont des petits salaires. Et ils n'ont pas envie de dire de mal de leurs employeurs tout en sachant eux-mêmes qu'ils sont maltraitants. Et c'est des gens qui gagnent le SMIC, hein, c'est-à-dire d'abord ils ont peur entre eux de parler, ils ont peur d'être reconnus. Donc Laure, jusqu'au samedi, c'est-à-dire jusqu'à avant-hier, a reçu des textos de gens qui lui disaient « même si je suis flouté, même si ma voix est pitchée, je ne veux plus passer à la télé », c'est-à-dire de gens qui avaient vraiment, vraiment peur.
Mmh. Qu'avez-vous fait? Vous avez coupé les séquences ou comme ils étaient bien floutés, non, et bien pitchés, comme vous dites, vous êtes allés quand même?
Ouais, on y allait quand même parce qu'en fait on est parti du constat à la base. En fait, c'était à chaque fois les gens reculaient, c'est-à-dire qu'au départ, les gens étaient vraiment volontaires pour parler. Et puis, au fur et à mesure du temps, il fallait flouter, changer la voix. Et en fait, on s'est dit, bon, il faut les protéger. Clairement, il y a un vrai souci dans ce secteur-là, où une vraie crainte, une vraie peur. Et même des gens qui ont quitté des établissements, c'est-à-dire qui ne travaillent plus là-bas, ont peur de représailles, ont peur d'avoir des procès, ont peur d'être attaqués pour diffamation. Et donc nous, on est parti du postulat de se dire, on va les protéger, et c'est normal, pour protéger leur parole, pour pouvoir la libérer, justement.
Donc, il y a beaucoup de séquences très fortes, je m'adresse à toutes les deux, que vous avez dû couper.
Claire a dû, Laure, pardon, a dû couper des témoignages, excuse-moi. Laure a dû couper des témoignages de personnel soignant, effectivement, qui était très insistant dès le début du doc. Voilà, mais dans l'ensemble, on a diffusé ce qu'on souhaitait diffuser.
Alors, Laure, vous êtes entrée en contact avec Caroline et Catherine Hyper, fille et petite-fille de Jean. Jean a 92 ans, il vit dans un autre EHPAD du réseau Orpea. Là, le tableau est moins idyllique que l'EHPAD témoin, si j'ose dire. Quelle est la situation?
Quelle est la situation aujourd'hui ou
quand vous avez filmé, racontez ce que vous avez vu.
Donc en fait,
là où se trouve Jean.
Ouais. Donc en fait, quand on les rencontre, Jean est chez Orpea depuis 8 mois. Mmh. Et en fait, sa fille et sa petite-fille se posent la question de comment on peut perdre 30 kilos en 8 mois. En fait, quand Jean rentre chez Orpea, donc en novembre 2021, il est valide, il marche, il n'a pas de protection, il mange normalement, il pèse 80 kilos. Et en fait, en 8 mois, sa famille, ses proches l'ont vu glisser, vraiment une descente aux enfers, sans explication. C'est-à-dire que Catherine, Caroline...
Vous dites qu'il a perdu ses dents. Il a perdu la plupart de ses dents. Ouais. Il était joyeux et là, il parle quasiment plus.
Il est devenu mutique, il ne parle plus, non? Et en fait, elle s'interroge, parce que ça a été une des réactions pas mal sur les réseaux, en se disant, pourquoi est-ce qu'ils ne la sortent pas? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé? En fait, elles n'avaient pas le choix de le laisser là, parce qu'elles cherchaient des places ailleurs, et les autres EHPAD du coin étaient tous pleins. Et l'autre question, c'était, pourquoi est-ce qu'elles n'alertent pas? Et en fait, elles ont alerté. Elles ont envoyé des dizaines de mails à la directrice, au personnel soignant, et elles n'avaient jamais de réponse, jamais d'explication.
Là, vous avez fait la seule chose qui était possible, en tant que journaliste, vous avez planqué des caméras. Pour quel résultat? Réponse juste après ça. Culture Média revient tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de ce doc passé hier soir, dimanche, sur M6, dans la case Zone Interdite, Défis et Scandales de la Dépendance. On est avec Géraldine Levasseur, la productrice, Laure Herpeu, la réalisatrice. On parlait de Jean. Jean, il est en EHPAD, je retrouve son âge, 92 ans. Pour savoir ce qui se passe, sa famille s'inquiète. Il a perdu 30 kilos en 8 mois, il a perdu une partie de ses dents. Lui qui était joyeux est devenu mutique. Il a aussi des ecchymoses parce qu'il multiplie les chutes. Que s'est-il passé? Vous décidez d'installer une caméra cachée dans sa chambre. Qu'avez-vous découvert ?
Ouais, donc en accord avec ses proches et avec lui-même d'ailleurs. En gros, on met cette caméra en face de lui pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on a placé la caméra donc, pendant 4 jours. Parce qu'en fait, dans la narration, il sort après de l'EHPAD, donc il a quitté Orpea. Et en 4 jours, on s'est rendu compte que on le fait manger en 4 minutes. Donc ça a été le premier choc.
En 4 minutes, entrée, plat, dessert.
Entrée, plat et deux desserts, oui. En 4 minutes. Et en fait, on l'entend s'étouffer, on entend que... Et en fait, ce que vous ne voyez pas à l'image, Jean est capable de manger tout seul. Et là, on le nourrit aussi. Et ça fait partie du glissement. C'est aussi une des problématiques. On le gave, en fait. Mmh. On le gave en 4 minutes, alors qu'il pourrait manger tranquillement tout seul. On constate aussi qu'il est capable de passer 19 heures dans son lit. C'est-à-dire qu'on couche à 16 heures. Et il va ressortir de son lit le lendemain à partir de 11 heures enfin, le lendemain matin à 11 heures. Ce qu'on a réalisé aussi, donc, c'est des gestes brusques, des toilettes faites brusquement. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment quand on a son proche en EHPAD. Donc les protections sont changées la nuit. Et quand elles sont changées, les soignants, donc c'est très régulier, je l'ai constaté dans d'autres endroits, hein, au lieu de mettre une petite lumière et de réveiller la personne doucement, ils allument la lumière pleine balle et en fait, on est réveillé comme ça et puis on nous change notre couche comme ça en pleine nuit. Et parfois de manière violente, comme on a pu le constater.
Autre problème, le manque de personnel, le turnover, comme on dit, pour employer un mot pas très français. Caroline et Catherine viennent faire déjeuner Jean. Elles s'aperçoivent qu'il a une nouvelle bosse sur la tête, cachée cette bosse sous un chapeau. Elles appellent l'aide-soignant pour comprendre, mais l'aide-soignant n'était pas au courant, donc il appelle l'infirmier, qui finit par arriver. Vous avez filmé en caméra cachée, mais on a le son.
Il a une bosse sur la tête.
Mais parce que ça, il a ça tout le temps d'habitude ?
Alors moi, je suis vacataire, je suis là une fois de temps en temps. Ah. Je vais demander un passage médecin pour...
Il y a un médecin là aujourd'hui ?
Ah non, le week-end, déjà en semaine, il faut leur courir après. Ah, alors oui. Là, le week-end, même pas pour rigoler. Alors vraiment... Mais après, il est à la retraite, donc il passe... Ne vous inquiétez pas, je vais faire un bon passage.
Il y a un médecin, même pas le week-end, même pas pour rigoler. Ça fait froid dans le dos quand on entend ça. Combien paye la famille de Jean pour un tel service ?
Alors, il paye 3 800 euros. Il payait 3 800 euros par mois. Et en fait, Jean perd 30 kilos et à un moment donné, quelqu'un suggère à Catherine « Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas une dame de compagnie pour l'aider à manger ?» Parce qu'en fait, Catherine, elle y va toutes les semaines, ses petites filles aussi, mais elles ne peuvent pas y aller tous les jours. Et elles ne peuvent pas être là 2 fois par jour au repas. Donc en fait, du coup, elle prend une dame de compagnie et ça lui coûte 400 euros de plus, donc 4 200.
Ça, c'était dans les EHPAD. À domicile, ce n'est pas forcément mieux. On comprend pourquoi 9 Français sur 10, vous avez cité ce chiffre, veulent finir leur vie chez eux. Mais à la maison, ce n'est pas forcément mieux, c'est presque pire. Qu'est-ce qui vous fait dire ceci ?
Eh ben, en fait, les mêmes problématiques se retrouvent au domicile, c'est-à-dire que le manque de personnel, les problèmes, par exemple, de comment est-ce qu'on mange, est-ce qu'on arrive à manger tout seul, est-ce qu'on peut changer sa protection ou pas, enfin tout ça, c'est les mêmes problématiques. Sauf qu'à la maison, y a encore moins de passages, c'est encore plus difficile de faire venir les gens. Et ça, c'est une des choses que j'ai apprises, moi, c'est que déjà, rien que de faire rentrer la personne jusque dans le domicile, quand on est invalide et qu'on ne peut pas ouvrir la porte, c'est la première difficulté, c'est comment les gens rentrent. Donc les trousseaux de clés, Émilie, c'est ce qu'elle nous raconte. Donc ça, on a suivi le quotidien d'Alice et de sa petite fille Émilie. Et en fait, Émilie nous explique, déjà, il y a un souci sur les jeux de clés. On a 6 jeux de clés qui tournent, mais quand il y a 18 passages différents, il pourrait y avoir 18 jeux de clés qui tournent pour chez Alice.
Et puis autre problème que vous relevez, à domicile, une absence totale de contrôle, donc des dérives possibles. Bernadette témoigne d'agressions sexuelles qu'elle aurait subies. Bernadette a 72 ans.
Oui. Et donc ça fait 6 ans qu'elle a des aides à la maison. Et elle nous raconte son quotidien terrible, des humiliations, comment on la regarde quand elle fait ses besoins sur ses toilettes, enfin elle est aux toilettes et la personne ne sort pas des toilettes pour lui laisser son intimité. En fait, les soignants, je pense qu'ils sont confrontés à une telle pression, il y a un tel manque de temps. Et même de manque de temps pour créer des liens avec les gens, en fait. Parce que du coup, c'est robotisé.
Géraldine Levasseur, vous prenez bien soin de ne pas mettre en accusation les auxiliaires de vie, parce que l'immense majorité d'entre eux sont engagées, courageuses ou courageux, bienveillantes, patients, mais sont débordées ou sous-payées.
Les deux.
Vous n'avez pas jeté tous les bébés avec l'eau du bain.
Mais non, bien sûr que non, parce que c'est des gens qui aiment leur boulot et qui font mal leur boulot malgré eux. Donc, On demande à des gens qu'on ne considère pas de faire un boulot absolument essentiel pour le maintien à domicile de nos anciens. C'est-à-dire que quand on regarde le cas d'Alice, Alice, elle a 6 personnes par semaine, 18 par mois. Elle ne peut pas avoir d'intimité. Et donc, on a engagé une de nos journalistes, qui s'appelle Clémentine Caillon, à se glisser dans la peau d'une de ses auxiliaires de vie dans 3 territoires de France pour voir la réalité du boulot, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'elle parcourt chaque jour, les pleins d'essence qu'elle fait à un moment donné où les Français ont quand même du mal à mettre de l'essence dans leur voiture. Mmh. Et Clémentine raconte un quotidien absolument épouvantable où elle est sur des stations d'autoroute, des aires de route, en train de manger un sandwich parce qu'elle est dans un temps partiel subi, par exemple. C'est-à-dire qu'elle a une pause au milieu de l'après-midi, elle n'a pas le temps d'entrer chez elle, elle n'a pas d'autres résidents à voir. Bon ben elle reste toute seule dans sa voiture à écouter la radio ou à manger un sandwich. Vous voyez, c'est des conditions. On demande des postes essentiels à des gens qu'on ne paye pas et qu'on ne considère pas.
L'horaire peut, la partie la plus difficile, des raisons d'espérer. Il y a des solutions et des alternatives.
Ouais, ouais. Et c'était important pour nous de donner quand même, finir le documentaire sur une note d'espoir parce que on n'est pas les seuls à avoir fait ce constat que la situation ne va pas. Mmh. Et il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses. Donc on a montré le cas de la maison de Blandine. Là-bas, donc, les gens sont... C'est entre les pads et le domicile, en fait. C'est-à-dire
la maison de Blandine, c'est un établissement. Hein. Ce n'est pas la maison de quelqu'un qui s'appelle Blandine.
Non, c'est...
Il faut le dire. Il faut le dire, ouais. Pour qui n'a pas vu le sujet.
C'est une marque, c'est une résidence, mmh. C'est une formule alternative. Quand on devient dépendant, on peut donc... vivre là-bas, on a son domicile, c'est-à-dire que c'est chez nous, donc on a son petit appartement de 2-3 pièces. Et en parallèle, il y a des pièces communes où des activités sont organisées toute la journée et où on peut partager donc, avec d'autres personnes âgées. Ils ont voulu rester sur un format donc, de 25 personnes.
Et c'est le même prix ?
Non, c'est pas le même prix, ça coûte 1 600 €. Donc, ouais.
Bah, 1 600 € c'est moins cher que ce que vous citiez tout à l'heure.
C'est beaucoup moins cher.
C'est mieux et moins cher.
Ouais. Alors après, il faut quand même rappeler que c'est dans des milieux plus ruraux, donc c'est aussi, il faut à mettre en comparaison, mais oui, c'est moins cher, beaucoup moins cher.
Merci beaucoup, Laure Herpeux, vous êtes réalisatrice. Merci beaucoup, Géraldine Levasseur, vous êtes la productrice de ce doc Défi et scandale de la dépendance à voir sur la plateforme 6play. Merci d'avoir été avec nous en direct après coup de cette diffusion hier soir et ça avait déjà bien marché. On se retrouve dans un instant, on va rester sur M6 avec un nouveau couple qui a débarqué lundi dans Scène de Ménage. Une fois n'est pas coutume, leur nom est déjà connu. Fanny Cottençon et Didier Benureau, je veux dire par là que ce sont des gros noms du théâtre et du cinéma. Et puis Bruno Donnet, son nom est aussi connu, c'est un gros nom pour ces télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous serons avec les comédiens, comédiennes Fanny Cottençon et Didier Benureau qui incarnent le nouveau couple de la série Scène de Ménage sur M6. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les curiosités médiatiques et hier matin, vous avez été très surpris en regardant votre programme dominical préféré, Le Jour du Seigneur.
Oui, vous le savez Philippe, hein, tous les dimanches matins, France 2 diffuse des émissions religieuses. Toutes les religions ont la leur et pour ce qui concerne les catholiques, juste avant la messe, le programme s'intitule donc Le Jour du Seigneur. Chaque semaine, l'émission prend à bras le corps un sujet de société ou bien un thème d'actualité et hier matin, la question du jour était celle-ci.
Homosexuels et catholiques, comment trouver sa place ?
Une grande question sur la place des homosexuels dans l'Église. Alors l'émission a débuté avec un édito tout en images qui est d'abord venu poser un constat implacable.
L'Église n'est pas assez accueillante, particulièrement avec les personnes homosexuelles.
Et puis, en plateau, Le Jour du Seigneur a ensuite accueilli un invité, Timothée de Montgolfier, auteur d'un livre et très touché par le sujet.
Vous êtes directement concerné par cette question, puisque vous êtes marié avec un homme.
Timothée a évoqué dans une longue interview sa situation personnelle et sa relation au Christ.
Il ne m'appelle pas à changer mon homosexualité, parce que je suis comme ça et je suis heureux d'être homosexuel.
Bref, tout se déroulait parfaitement bien, l'homosexualité y était évoquée de manière tout à fait progressiste, lorsque j'ai été très surpris par la manière dont le présentateur a soudainement convié au débat le pape François.
J'aimerais qu'on cite le pape François, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Si une personne est gay et cherche le Seigneur, fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?
Et si j'ai été surpris, Philippe, c'est parce que ces propos-là, qui suis-je pour juger, eh bien, ils datent de juillet 2013. Alors, ils traduisent incontestablement une forme d'ouverture d'esprit de l'Église sur la question de l'homosexualité. Seulement, voilà, des propos du pape au sujet des homosexuels, il en existe malheureusement de nettement plus récents. Et si je vous dis malheureusement, c'est parce qu'ils sont aussi infiniment plus problématiques. Ça s'est passé mardi dernier, le jour où l'agence Associated Press a interviewé le pape François au Vatican et où il a déclaré ça.
c'est homosexuel.
Être homosexuel n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, c'est un péché.
Être homosexuel est un péché. Aïe, aïe, aïe.
Ah oui.
Une déclaration qui a suscité pléthore de réactions indignées, mais qui, curieusement, n'a à aucun moment été évoquée hier, dans le jour du Seigneur, qui s'est contenté de s'enthousiasmer sur des propos d'il y a 10 ans.
Mais qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ces paroles de non-jugement ?
Alors, pourquoi ? Est-ce que le programme a préféré faire comme si cette toute dernière sortie papale et néanmoins tonitruante n'avait pas existé ? Difficile à croire. Interloqué, j'ai donc posé la question très tôt ce matin au rédacteur en chef du Jour du Seigneur qui m'a répondu que l'émission avait en fait été enregistrée le 12 janvier dernier, soit 12 jours avant la prise de parole du pape. Bien. Néanmoins, je me suis étonné que le programme n'ait pas été amendé, complété d'une petite mise à jour ou tout bonnement déprogrammé. Aurait-on diffusé, par exemple, hier, un débat dans lequel on se serait réjoui du départ en retraite à 62 ans, alors qu'on vient d'apprendre qu'il va être poussé à 64 ? Le rédacteur en chef m'a alors expliqué que, de son point de vue, la toute dernière déclaration du pape ne changeait pas grand-chose. L'homosexualité est donc un péché, tandis que l'hétérosexualité n'en est pas un. Ainsi soit-il.
Merci beaucoup Bruno Donnet.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandette.
C'est le générique de Scène de ménage et c'est une première, la fiction quotidienne la plus regardée par la cible de M6. Un nouveau couple débarque. C'est normal, on est en 14e saison, il y a des nouveautés. Mais ce qui est nouveau, c'est que Christine et Gilbert sont incarnés par des comédiens confirmés et connus. Bonjour Fanny Cottençon.
Bonjour.
Plaisir de vous recevoir, comédienne, cinéma, théâtre. Vous êtes également productrice César du meilleur second rôle en 83. C'était pour, dans l'Étoile du Nord. Vous avez joué dans des comédies, des séries, aussi les plus grands auteurs au théâtre, Corneille, Camus, Ionesco. Didier Benureau avec nous, bonjour.
Bonjour.
Comédien et aussi humoriste. Vous avez démarré chez Bouvard, tourné avec Blier, c'était Trop belle pour toi, dans Les Visiteurs. Vous êtes surtout connu pour vos one-man shows. Et vous voici tous les deux en couple depuis lundi dans Scène de ménage. C'est sur M6, c'est du lundi au samedi à 20h30. Est-ce que vous avez vu les audiences depuis votre arrivée ?
Ah, qu'elles sont pas mauvaises.
Ouais, on nous les a communiquées et ça a l'air très bien.
Votre arrivée a dopé les audiences vendredi. 4,03 millions de téléspectateurs, loin devant Un si grand soleil, un 3,3 millions. Si on compare les feuilletons, vous êtes devant. Et ça poursuit sa bonne semaine. Alors, contrairement à la majorité des autres couples, là on parle des personnages de fiction, vous êtes rencontrés sur le tard, vous ne vivez pas ensemble depuis très longtemps. Fanny Cottençon, qui est Christine ? Comment vous l'a vendue, si j'ose dire ?
Christine, c'est une. Elle vient de rencontrer Gilbert après 3 mariages et 3 divorces. On entend qu'en fait, elle les a quittés parce qu'elle s'ennuyait.
Ouais.
Donc, avec Gilbert, elle est contente parce qu'en fait, elle va vivre comme elle a envie de vivre. Elle vient de la bourgeoisie, petite bourgeoisie de province. Ouais.
Elle est propriétaire d'un village vacances, c'est bien ça.
Voilà, c'est ça.
Didier Benureau, j'ai la même question. Qui est Gilbert, votre personnage ?
C'est un camionneur, quelqu'un qui a une entreprise de camions. Et c'est un beauf qui est peu cultivé, mais qui est...
qui est toujours en chemisette.
Souvent un carreau, enfin bref, c'est un ringard, mais il est touchant dans la mesure où il est très amoureux de sa femme. Mmh. Et je pense qu'on communique ensemble parce que il y a du respect mutuel et de l'amour. Et
de l'envie.
Oui,
elle a une libido, Christine. Oui. Elle le répète souvent. Mais je me suis dit, mais c'est pour ça qu'elle veut que Gilbert revende son 4x4. Et je me suis dit, mais quel rapport ?
Est-ce qu'on dira 9 dans un... Voilà. Parce qu'il est petit.
Il est petit et chauve. Quel devis, on dirait.
Il y aura un 9 dans un bus.
Ouais. Voilà. Et ça coupe la libido.
Elle se fout de ma gueule régulièrement. De
oui, voilà. Et puis déjà, même les scénaristes, ils vous appellent Gilbert, c'est pas un...
Ouais.
C'est pas un hasard.
Parce que j'ai regardé, il y en avait très très peu. Et le pic des Gilbert a 70 ans. Donc c'est aussi une manière de vieillir votre personnage. Je dis rien.
Je n'ai pas, j'ai pas encore ce stage-là.
Je sais, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, je me serais jamais permis. On veut entendre un extrait. Il est justement question de la beauté des uns et des autres et du temps qui passe.
Une question comme ça. Est-ce que tu me trouves beau,
Gilbert? On vient de se rencontrer, on a emménagé ensemble, tout se passe bien, on a des projets d'avenir. Pourquoi tu cherches des problèmes ?
ne faut jamais poser une question dont on n'a pas envie de connaître la réponse.
Oui, oui, oui.
Mais on voit que c'est bien écrit.
On a la réponse. Ouais,
Fanny, juste un mot. Vous dites que vous avez fait changer des caractéristiques de votre personnage quand vous êtes arrivée.
Oui, parce que en fait, je crois que le succès de cette série, c'est que c'est un travail collégial avec les auteurs, les réalisateurs, la production, qu'il y a beaucoup d'exigences. Donc, on travaille ensemble, les comédiens.
Qu'est-ce que vous avez fait changer ?
Au départ, il y avait marqué « femme soumise ». Je me suis dit, mais si elle est soumise, il n'y aura pas de scène de ménage.
Ça, c'est vrai.
Voilà, donc c'est pas possible. Donc,
Je dois dire, pour avoir vu beaucoup d'épisodes où vous êtes, c'est le beau rôle, c'est une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre.
Oui.
Il n'y a pas un dominant, un dominé.
Voilà.
Vous êtes un jeune couple âgé, comme vous dites, qui est une très belle expression. Parfois iconoclaste, parfois punk. On va entendre un autre extrait. Alors, je donne le contexte. C'est un dîner à la maison. Christine est en cuisine, vous avez des amis qui sont venus dîner. Et Christine, après avoir servi l'entrée, est en train de mettre la touche finale au plat principal. C'est très, très beau. Une sorte de petit ramequin de riz. Vous mettez des fleurs pour décorer et faire du goût. Vous avez préparé 4 assiettes magnifiques. Quand soudain, Gilbert arrive en cuisine.
Oh, mais c'est superbe!
Vraiment?
Mais oui!
Et ma robe?
Magnifique!
Non, mon maquillage?
Mais t'es sublime, avec ou sans!
Et l'entrée, comment tu l'as trouvée?
Dégueulasse! Amère, acide, c'est vraiment de la merde! Hein. J'en ai perdu une lentille!
En fait, tu dis vraiment ce que tu penses?
Bah... oui, évidemment.
Ah, c'est ça qui change par rapport aux séries comme ça. C'est que là, vous êtes
cash.
Quasiment punk.
Oui, c'est ça.
C'est ce qui vous a séduit. Pourquoi vous avez dit oui? Vous aviez déjà fait des apparitions dans Scène de ménage.
Oui. J'avais fait un, comment on appelle ça, un prime avec Thierry Lhermitte et Valérie.
Didier Benureau, alors, c'est la même question. Pourquoi?
Je connaissais Scène de ménage et je trouvais que c'était une série qui me touchait. Enfin, je trouvais ça marrant, les comédiens très bien. Et donc, quand on m'a proposé ça, on m'envoyait des textes.
Vous aviez vu déjà la série ou pas?
Oui, j'avais vu
la série. Parce que d'après mes infos, vous n'avez pas la télé.
C'est exact.
Bah alors, vous avez fait comment pour la voir?
Parce que j'ai pas de télé depuis quelques années, mais Scène de ménage existe depuis 14 ans. Donc, je connaissais très bien la série.
Exactement.
Et puis on m'a contacté, j'ai reçu des textes et les textes m'ont plu. J'ai trouvé ça drôle et bien écrit. Et donc j'ai dit oui, j'arrive, je fais le casting. Mais on était plusieurs, on était nombreux.
D'accord, et c'est vous qui avez été retenu au casting?
Absolument, après ils ont fait le couple.
Ah oui, après il y a des castings de couple, voir si ça match entre vous deux.
Exactement.
Comment vous travaillez? Vous dites qu'il faut enquiller Fanny Cottençon. Ça va vite le tournage?
Ah oui, ça va vite.
C'est une caméra fixe?
C'est une caméra fixe, donc c'est assez exigeant. Mais on a la chance de pouvoir regarder comment sur le combo, là, sur la télévision. Donc on voit très vite que, étant donné que c'est une caméra fixe, tout se voit. Au théâtre, on peut... il n'y a pas de champ contre champ, donc absolument tout se voit. Donc il faut être présent chaque seconde. C'est dans ça que c'est difficile.
Vous tournez beaucoup de prises?
Oh bah on peut en tourner beaucoup.
Ah oui, on peut en tourner 7, 8,
D'accord.
Plus même.
Ou plus.
Parce que moi, j'ai pensé à une séquence. C'est la séquence dans laquelle Fanny fait un gazpacho au mixeur sans couvercle.
Ah, ça en a fait one shot.
Ah, vous en foutez de partout. Je me suis dit, il ne faut pas la rater celle-là.
Ouais, one
parce
shot.
Que la robe, elle est tapissée pour l'hiver. Si vous ratez, il faut tout refaire. Mais là, vous n'êtes pas raté.
Non, parce surtout qu'il fait froid.
J'avais pas pensé à ça. Ah oui, ça dégouline et vous êtes caillé.
Oui.
Vous faites quoi du lundi au samedi à 20h30? Est-ce que vous vous regardez?
Non.
Ça a démarré cette semaine. Vous êtes regardé?
Franchement, j'ai regardé lundi.
Ouais.
Parce que. Et curieusement, alors que vraiment, bon, il n'y avait pas de raison, mais j'avais le trac. C'est idiot. Et puis, je suis là ou pas là, quoi.
D'accord.
Mais on s'est vu en conférence de presse, enfin, quand il y avait les journalistes qui étaient réunis, on s'est vu sur un écran. Et c'est vrai que. En fait, je ne me suis pas vu, j'ai vu un couple. J'ai découvert que le couple fonctionnait, même si dans le jeu on sentait ça, mais j'ai été très surpris. Enfin, j'ai vu un couple qui. Enfin, j'y ai cru, quoi. Ouais. J'y ai cru.
Vous avez quel rapport avec la télévision, Fanny Cottençon? Je veux dire pourquoi. Il y a 20 ans, c'est toujours terrible de retrouver les interviews anciennes. Vous disiez détester la télé, je vous cite. La télé française, c'est le nivellement par le bas. Le temps a passé. Maintenant, vous avez quel rapport avec la télévision?
Ouais, j'étais un peu radicale à l'époque.
C'est pour ça que ça m'a plu.
Non, elle l'est toujours, elle l'est toujours.
Oui, je le suis toujours. Mais bon, la télévision, je ne peux pas dire que je la regarde beaucoup. Les jeunes gens ne la regardent pas du tout. Hein. Mm-hmm. Moi, je la regarde, oui. Mais je vais, vous voyez, hier, j'étais au théâtre.
Mais est-ce que la manière de travailler a changé ? Puisque les comédiens qui se pincent le nez pour jouer dans des séries, par exemple, il y a 20 ans ou 30 ans, maintenant, ils en demandent et ils en redemandent. Est-ce que votre vision de la télévision et de l'industrie de la télévision en France, notamment, a changé ?
Ben moi, je suis mal placé parce que je n'ai pas de télévision. Oui.
Mais on vous demande, quand c'est une télévision qui vous demande de travailler, est-ce que vous dites non, je ne mange pas de ce pain-là, je ne vais faire que du cinéma, qui est le genre noble ou du théâtre ?
Non. Je pense qu'il y a... Il y a plus de comédiens qui fonctionnent comme ça. On regarde ce qu'on nous propose, on regarde le rôle, on voit si ça correspond à ce qu'on... Si c'est dans nos cordes, si on a envie. Et puis, télévision ou cinéma... Non, c'est le projet, je pense, qui nous décide.
Le projet, ça s'appelle Scène de ménage. C'est sur M6 de lundi au samedi à 20h30. Merci beaucoup, Didier Bénureau. Merci, Fanny Cotenson.
Merci à vous.
D'être passé par le studio de Culture Média. Nous, on continue, évidemment, après les infos de 10h. Un rappeur, c'est notre invité, mais il n'est pas seulement rappeur. Il s'appelle Oxmo Puccino. Il est l'affiche d'un spectacle hors norme. Marcel, d'après l'œuvre de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, qu'il joue avec Françoise Fabian. Et puis dans les indispensables, on va continuer à parler de littérature et peut-être un peu de Proust avec Nicolas Carreau et puis Stéphanie Loire qui va nous faire le tour d'horizon des nommés dans les catégories musicales aux Oscars. Jean-Luc Lemoyne arrive pour sa session de rattrapage. Quel programme ? À tout de suite.